Il a gagné sur la mort. Christ est ressuscité. Ah, c'est bien, c'est bien. La prière de ralliement des premiers chrétiens. Christ est ressuscité. Oui, c'est une assurance. Nous avons la preuve. Il est vraiment ressuscité. Ce matin, avant d'aller plus loin, on va prier. On va reprendre des textes qu'on a lus dans un autre évangile et puis aussi dans le même livre des Actes. Mais ces textes seront dans une autre version. Donc, ce sera déjà un petit peu différent. Nous allons d'abord prier. Seigneur notre Dieu, merci pour tout ce que nous venons encore de chanter, toutes ces paroles que nous avons pu chanter ensemble, Seigneur, et auxquelles nous nous sommes associés. Seigneur notre Dieu, en ce matin de Pâques, ma prière c'est que la lumière de la résurrection illumine nos vies, illumine nos cœurs, illumine nos maisons, illumine nos familles. Oui, Seigneur, je te prie qu'en ce jour de Pâques, en ce jour de renouveau, la lumière de la résurrection transforme encore notre vie, Seigneur. Seigneur, visite-nous en ce sens, ce matin, chacun là où nous nous trouvons. Amen. Je vous invite, avant d'aller plus loin, de lire deux textes. Ce texte que nous venons de lire, mais comme j'ai dit, dans une autre version, dans le livre des Actes, au chapitre 2, où nous lisons ce témoignage qui est donné par Pierre le jour de la première annonce de l'Évangile, où il va y avoir des milliers de conversions. Et Pierre, illuminé par le Saint-Esprit, fait cette déclaration. Il dit « Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait, en accomplissant par son moyen au milieu de vous toute une série de miracles, de signes, d'actes extraordinaires. Il a été livré entre vos mains, conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous, vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. En effet, David dit de lui, « Je voyais le Seigneur constamment devant moi, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est plein de joie, et voilà pourquoi mes paroles débordent d'allégresse. Même mon corps reposera dans l'espérance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe, car tu m'as fait connaître le chemin de la vie et tu me combleras de joie en ta présence. Mes frères, permettez-moi de vous parler franchement. Le patriarche David, il est bel et bien mort, il est enterré. Son tombeau, il existe encore ici, près d'ici, aujourd'hui. Mais David, il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis sous la foi du serment de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Ainsi, il a entrevu à l'avance la résurrection du Christ. Et c'est d'elle qu'il parle en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer. Dieu a ressuscité des morts ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint qu'il a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. J'attire votre attention sur la partie ici du verset 32. Dieu a ressuscité des morts ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Nous en sommes témoins. Et puis, un autre texte. Voilà, merci. Un autre texte que nous lisons dans un autre évangile, mais ce matin de Pâques, nous lisons les mêmes événements. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, et on lit les 12 premiers versets. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et pendant qu'elles étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'un habit étincelant se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées, elles baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Elles revinrent du tombeau et elles allèrent tout raconter aux 11 ainsi qu'à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et quelques autres femmes qui étaient avec elles portèrent aussi la nouvelle aux apôtres. Mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas de foi. Pierre, cependant, partit, courut au tombeau. Se penchant, il ne vit que les linges funéraires. Il s'en retourna, très étonné de ce qui s'était passé. Dans la biographie de Luther, le réformateur, vous savez que ça n'a pas été facile, hein, quand on a vu le film qu'on a vu là, c'est assez périlleux, assez mouvementé dans sa vie à Luther. Vous savez qu'il est quand même passé un grand nombre de fois juste à côté de la mort. Et vous avez vu que dans ce film, on montre ces conflits intérieurs qu'il a vécu dans la prière, dans l'interrogation. Et un jour, on raconte qu'il est dans son fauteuil, dans sa pièce, complètement démoralisé, complètement cassé. Et sa femme, qui l'a beaucoup entouré, beaucoup soutenu, beaucoup encouragé, rentre, elle le voit comme ça dans la pièce, et comme c'est une femme intelligente et subtile, elle s'amène et elle ferme toutes les fenêtres. Alors Luther lui dit, « Mais que fais-tu ? C'est plein jour, pourquoi tu fermes les fenêtres ?» Et elle le regarde et lui dit, « Il est mort. Alors on ferme les volets et les fenêtres. » Et bien sûr, comme elle sait que ça va percuter en lui, lui se lève et dit, « Non, il n'est pas mort, il est ressuscité. Femme, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. » Je vous invite, mes amis, ce matin, en ce dimanche de Pâques, d'ouvrir les portes et de laisser entrer les lumières, parce qu'il est ressuscité. Ouvrez la porte de votre vie, ouvrez la porte de votre cœur, ouvrez la porte et les fenêtres de vos maisons, ouvrez la porte et les fenêtres de vos familles. Laissez la lumière du Christ se raviver encore en vous, dans votre intimité, au plus profond de votre âme, au plus profond de votre cœur. Laissez la lumière du Seigneur transilluminer votre vie, parce qu'il est ressuscité. Ouvrez les portes, les volets et les fenêtres. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, au verset 41, c'est juste un peu avant la résurrection. C'est lorsqu'ils sont ensemble dans le jardin de Gethsémané et que Jésus a demandé à ses disciples, « S'il vous plaît, priez un petit peu avec moi. » Et qu'ils ne savent pas trop pourquoi prier, alors ils se sont endormis une fois ou deux. Et Jésus vient vers eux et dit, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » C'est vrai, l'esprit est bien disposé. Nous venons de chanter des cantiques à la gloire du Seigneur. Alléluia au ressuscité. Alléluia à celui qui n'est pas resté dans le tombeau. Alléluia à celui qui est revenu en chair et en os vivant. Amen, amen, amen. Mais la chair est faible. Hier, là tout à l'heure, tantôt, demain, vous allez revivre vos problèmes, vos difficultés, vos tensions, vos doutes, vos interrogations, vos douleurs, vos maladies, vos souffrances et que sais-je encore. Ça va continuer. La chair est là. Mes amis, ce matin, laissons-nous transformer par la lumière du Christ ressuscité. Nous avons une espérance qui dépasse l'entendement. On a presque l'air idiot quand on en parle. Tellement idiot. Quoi, t'as pas été à l'école? T'as pas vu que les cimetières sont remplis de morts? T'as pas vu que les gens meurent et qu'ils ressuscitent pas? T'as pas vu qu'il y en a qu'on met dans un crématorium et qu'il reste rien? T'as pas vu tout ça? Quel âge as-tu? Éveille-toi. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Nous parlons de notre espérance parce que nous y croyons, frères et sœurs. Laissons-nous encore illuminer par le message de la Pâque. Notre espérance, c'est que la vie ne s'arrête pas au néant. Notre espérance, c'est que ce serait beaucoup trop absurde que tout ce qui est ici et tout ce qui est fait là se termine, comme dit Nietzsche, dans le désir du néant. Sois un surhomme tant que tu vis, parce que tout se termine dans le néant. Non, nous croyons que c'est trop absurde. Nous ne croyons pas à la fin dans le néant. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, les versets 18 et 19, nous lisons « Non, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je suis vivant et que vous aussi, vous vivrez. » Dans les deux textes que nous avons lus en introduction, on est frappé parce que on a simplement un témoignage historique et un témoignage théologique de ce qui s'est passé ces jours-là. Hein, on a des gens qui, en toute simplicité, ont écrit, c'est tellement banal comme fait que j'ai envie de dire, comme beaucoup d'autres l'ont dit, c'est ça qui leur donne toute leur authenticité. En fait, on nous raconte un truc un peu bizarre, hein, parce que finalement, excusez-moi de dire ça, mais Jésus est mort un petit peu trop tard, en fait. Il est mort un petit peu trop tard. Parce que si le vendredi soir, il était mort un petit peu plus tôt, ben, les femmes, elles auraient pu venir avec les aromates, elles auraient pu le mettre au tombeau, elles auraient pu l'embaumer, mais c'était trop tard. Sabbat était là. Alors, puisque le sabbat était là, ben... Il ne pouvait pas embaumer le corps, donc il a été mis dans le tombeau, il a été mis dans la sépulture. Et dans la naïveté, la simplicité, le dimanche matin, premier jour où elles peuvent venir, avec des cœurs gros, avec la tristesse, parce que Jésus est mort et qu'il est dans le tombeau, elles arrivent, leur petit paquet, leur petit parfum. Et là, le tombeau est vide. Et on nous donne des détails qui sont presque des détails idiots, absurdes. Elles ne savent pas que faire. Elles voient deux êtres tout illuminés. Il y en a une qui confond Jésus avec le jardinier. Et puis des détails tellement bêtes, tellement futiles qu'on se dit, allez, quoi? Il n'y a rien d'autre à dire de la résurrection? Exactement la même chose que... Dans le texte que nous avons vu dans le deuxième chapitre du livre des Actes, où nous avons lu que, verset 32, je vous rappelle, ces événements-là, nous en sommes tous les témoins. Ailleurs, dans la deuxième épître de Pierre, Pierre dira, « Nous ne suivons pas des fables habilement construites. » Vous savez, mes amis, si au premier siècle, dans les premiers textes, dans les premières épîtres, déjà, il fallait que les apôtres disent « Ce Jésus que vous avez crucifié et ressuscité, nous en sommes tous témoins. » C'est déjà parce que à l'époque, on disait que c'était une bande de feulés, hein. C'est déjà parce qu'à l'époque, on disait « Mais avec quoi tu viens? Qu'est-ce que tu nous racontes? Nous sommes témoins. » La même audace que nous, aujourd'hui, qui devons dire « C'est folie de la croix. Jésus est mort, mais Jésus est ressuscité. » On regardait déjà les premiers témoins du Christ de la même manière, hein, comme des feulés qui racontaient du tout et du n'importe quoi. Si dans l'épître de Pierre nous lisons « Nous ne suivons pas des fables habilement construites », c'est déjà parce qu'on leur disait « Mais qu'est-ce que vous racontez comme sornette? Qu'est-ce que vous racontez comme fable ?» Sinon, ils n'avaient pas besoin de se justifier, d'essayer d'apporter leur témoignage contraire. Je voudrais, en tout cas, je ne sais pas quelle est la perception dans votre cœur de ces événements, vous qui avez l'habitude d'être là, vous qui avez moins l'habitude d'être là. Mais en tout cas, je voudrais réaffirmer ce matin, et je pense que Gaston sera d'accord avec moi, que ici, en ce lieu-ci, nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité corporellement. Nous croyons à la folie de la croix. Nous croyons en ce lieu ici, que c'est là toute la force et toute la puissance de l'évangile que nous lisons dimanche après dimanche. Ici, en ce lieu-ci, nous croyons ça. C'est trop facile. C'est trop facile. Hein, notre jeune sœur Rebecca n'est pas là ce matin. Hein, peut-être qu'elle pourrait nous dire hein, les élucubrations de théologiens extrêmement intelligents qui ont pu lire et relire et analyser des textes avec de multiples versions et qui, assis au bord d'un bureau avec les pieds dans des pantoufles bien chaudes, 2000 ans après, peuvent dire n'importe quoi à propos de la résurrection. Ici, mes amis, nous croyons au témoignage naïf et simple de ces premières personnes qui, sous l'autorité de l'Esprit de Dieu, ont écrit des événements simples qui se sont passés en ce temps-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, comme moi, il y a quelque temps, il y avait une émission télévisée avec un pasteur qui avait des grandes révélations à faire. Et alors, il démontrait que la résurrection de Jésus-Christ, mais non, c'était une conception, un concept, une métaphore, je sais pas, tout était envisagé. Et je me souviens qu'à cette émission-là, il y avait des gens qui étaient athées, et ils osaient à peine lever le doigt en disant, mais monsieur le pasteur, la résurrection du Christ dans la foi chrétienne, c'est pas un élément important? Incroyable! C'était les athées qui devaient demander au pasteur si la résurrection, ça n'avait pas un sens quand même dans la foi chrétienne. Ici, mes amis, nous croyons à la résurrection corporelle de Jésus-Christ. C'est la force de l'évangile. Et ce conflit-là, entre ceux qui ont été des témoins, ceux qui ont amené les preuves simples qui leur ont été données, et ceux qui voudront toujours plus comme preuve, toujours plus comme preuve, il existera toujours. Au premier siècle, c'était comme ça. Vous nous racontez des fables, et aujourd'hui, c'est de la même manière. Vous nous racontez des fables. Ce conflit-là, mes amis, restera toujours. J'aime beaucoup le témoignage d'un homme, peut-être certains le connaissent, c'est un monsieur âgé, déjà maintenant, il a écrit plusieurs livres, il est chrétien, et il y a bien plus de 30 ans, je crois, il avait obtenu le prix Goncourt, c'est Didier Decoin. C'est un chrétien qui a vraiment vécu une expérience spirituelle très particulière, et dans tous ses livres, il fait référence à sa foi. Et on l'avait, au moment où il avait obtenu le prix Goncourt, on lui avait demandé, mais pour lui, quel était l'événement ou les événements les plus frappants dans les récits qui parlent de la résurrection. Et voilà ce qu'il avait répondu. Moi, qui suis un écrivain, qui suis un scénariste, je suis frappé, je suis stupéfait de trouver dans le témoignage de la résurrection le plus grand ratage du scénario de tous les temps. Des femmes qui arrivent au tombeau, qui voient une pierre rouler, qui aperçoivent deux anges. Mais c'est dérisoire par rapport à l'immensité de l'événement, mourir et ressusciter. Pourtant, à mes yeux, c'est la simplicité de ces choses qui marque toute l'authenticité au témoignage qui nous est donné. Des hommes d'affaires, des hommes d'affaires auraient imaginé pour ce final une super production à l'américaine. On aurait vu un Jésus jaillissant d'un tombeau avec des légions d'anges, des myriades de trompettes en train de sonner pour la résurrection. Jérusalem entier aurait été ébahi d'admiration devant ce qui s'était passé. Jésus jaillissant du tombeau. Au contraire, les évangélistes rapportent seulement d'humbles détails, comme Marie-Madeleine qui prend Jésus pour le jardinier, comme Jean qui arrive le premier au sépulcre, mais qui, par déférence pour Pierre, attend, le laisse entrer pour que lui-même voie le tombeau vide. Ce type de détail ne s'invente pas. Pas plus que la parole de Jésus à Thomas. « Thomas, mets ton doigt dans mes plaies. » Ainsi, la résurrection telle qu'elle a eu lieu, Dieu seul pouvait l'écrire. Et j'y vois sa signature. J'y vois sa pudeur. J'y vois aussi la discrétion pour respecter le merveilleux cadeau qui est fait aux hommes, la liberté de croire ou de ne pas croire. En fait, juste assez de lumière sur les événements pour que celui qui veut croire, croit, mais pas trop d'illumination pour ne pas forcer à l'adhésion. J'aime beaucoup ce texte. Je trouve que c'est vrai. C'est vrai que c'est la toute simplicité de cet écrit qui marque la pudeur de Dieu, qui marque la liberté qu'il nous laisse. Vous n'êtes pas obligés d'adhérer. Voilà simplement les faits tels qu'ils se sont passés. Simplement illuminés tels qu'ils se sont passés. Maintenant, acceptez ou refusez. Vous êtes libres. Ce conflit, il existera tout le temps entre ceux qui ont suffisamment de preuves avec les témoins. Nous avons été témoins, dit l'apôtre Pierre et les autres, et ceux qui auront besoin de preuves supplémentaires. Vous savez, quand Billy Graham faisait des campagnes en Europe, je sais que parmi nous, il y en a qui ont été convertis par une ou l'autre campagne de Billy Graham, ici dans OSL, dans notre pays. Et lors d'une de ces campagnes, Billy Graham avait visité aussi l'Allemagne, et il avait rencontré le chancelier allemand à l'époque, et il lui posait la question, il lui avait dit, quel est pour vous l'élément historique le plus important? Et le chancelier lui avait répondu, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Il dit, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Parce que, avait-il dit, si Jésus-Christ est vraiment ressuscité, le monde a un espoir. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, je n'ai plus aucune pensée d'espoir pour le monde. Je pense qu'on peut tous être d'accord avec ça. Hein? Moi, je dis tous les jours à ma femme, je dis, je vais arrêter de regarder ce que je vois, ce que je lis et ce que j'entends. Parce que ça, chaque jour, je suis plus triste que la veille. Vous avez vu cette photo hein, qui a fait le tour du web encore il y a quelques jours, avec cette petite fille qui est comme ça. Vous l'avez vu, hein? Avec ses deux petits bras au-dessus de sa tête et les yeux remplis de supplications. Vous l'avez vu, hein? Alors le photographe se demande ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Et son père a été fusillé il y a quelques temps. Donc, quand le photographe il arrive avec son appareil photo, elle lève ses mains, elle attend son tour. Elle est comme ça. Et tous les jours, vous en voyez comme ça. Et tous les jours, vous entendez comme ça. Et vous entendez des histoires que vous vous pincez en vous disant, mais c'est pas vrai ça, c'est nous ça, c'est le monde où je vis. Et bien le chancelier disait la même chose à Billy Graham. Moi, j'ai aucun espoir si Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Et alors il avait dit à Billy Graham, et d'ailleurs, je vais bientôt être à la retraite, et quand je serai à la retraite, ça va être la priorité de ma vie. Je voudrais rassembler le maximum de preuves scientifiques possibles pour prouver la résurrection de Jésus-Christ. Mais c'est inutile, c'est pas nécessaire, les preuves sont là, il y a assez de preuves dans les récits qui nous sont laissés. Tu peux chercher autant que tu veux et continuer autant que tu veux. Tu prends cet éclairage-là ou tu ne le prends pas, c'est inutile. Je n'ai pas de preuves à apporter aux premiers témoins qui nous ont raconté ce qui s'est passé. Ce matin, je voudrais que, juste rapidement, sur quelques points, nous puissions justement nous laisser transilluminer par la résurrection du Christ, par les implications qui sont inhérentes à la résurrection. C'est plein d'implications, la résurrection. C'est pas, ah, Jésus est mort, ah, Jésus est ressuscité. La belle histoire, quoi. Non, ça a des implications directes pour nous. Puissent ces implications illuminer votre cœur, illuminer votre vie. La première de ces implications, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Il est vraiment Dieu, le Fils. Viviane et moi, on est dans un groupe comme ça de personnes qui partagent la Bible. Ils connaissent plein de choses. Mais chaque fois qu'on arrive à Jésus-Christ, paf, c'est le blocage. Là, Jésus-Christ, Dieu, ça passera jamais. Et on lit des textes où il dit, moi je suis ceci, moi je suis cela. Et là on dit, tiens, c'est drôle ce texte-ci ici que Jésus dit. Mais ça passe pas. Ça a été une problématique tout le temps. Ça a été une problématique tout le temps, vous le savez bien. Ça n'a pas été clair de savoir qui était Jésus. Les disciples, il a fallu longtemps que ça travaille pour qu'ils comprennent qui était Jésus. Jean-Baptiste lui-même va faire envoyer, il va dire, écoute, maintenant je veux savoir, t'es celui qu'on attend ou t'es pas celui qu'on attend? Hein? Vous vous souvenez des attitudes des disciples quand Jésus fait certains miracles, comme par exemple calmer le lac de Tibériade et la tempête, arrêter le vent? Que disent les disciples? Ils disent, mais qui est cet homme auquel même le vent et même la mer obéissent? Qui est cet homme? Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que Jésus lui-même dira aux disciples, hé, mes amis, qui dit-on que je suis, moi? Alors ils vont dire, ah, ben il y en a qui disent que t'es Jean-Baptiste qui est revenu, il y en a qui disent que t'es Élie, il y en a qui disent que t'es le prophète. Oui, et vous dites que je suis qui? Première grande révélation, quand Pierre, sans savoir ce qu'il dit, il dit, toi, tu es le Fils du Dieu vivant. Vivant au milieu de nous, ça veut dire. Ça n'a pas été facile. Cette bonne nouvelle, écrit Pierre dans l'Épître aux Romains, c'est que ce que Dieu a promis, il y a bien longtemps, par ses prophètes, dans les Saintes Écritures, elle parle de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui dans son humanité descend de David et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Que Pâques illumine votre cœur. Parce que le Jésus que nous proclamons, c'est Dieu. Vous allez dire, oui, on le sait aussi. Non, que ça réillumine votre cœur. C'est vraiment Dieu que nous proclamons. Nous proclamons Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a qu'une seule marque qui dit qu'il est Dieu. Au deuxième siècle, on est parti avec une histoire qu'on traîne encore aujourd'hui, qui a fait tout un débat. Et on en a encore écrit des livres où il est marqué... Le jour où Jésus-Christ devint Dieu. Des chrétiens se sont massacrés autour de ce thème. Ouais. On dirait que c'est en l'an 200 ou 250 qu'on a décidé que Jésus est devenu Dieu. Non, là, quand Paul il écrit « Jésus-Christ est Dieu ». Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit l'a montré. Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'a cloué sur une croix, il est mort dans un tombeau et puis il est sorti du tombeau. C'est ça le signe extraordinaire qui fait que Jésus était Dieu. C'est pas des gens qui 2 siècles après ou 3 siècles après ou 2000 ans après ou au siècle des lumières considèrent que Jésus était peut-être ceci ou peut-être cela. D'ailleurs, de la bouche même de Jésus, Matthieu 12, versets 39-38, il est dit, quelques spécialistes de la loi et des pharisiens intervinrent en disant, « Maître, nous voudrions te voir faire un signe miraculeux. » Il leur répondit, « Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux. » Un signe? Il n'y aura pas d'autre signe que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Voilà pourquoi Jésus est Jésus, Fils de Dieu. Dieu le Fils. Deuxième implication. Que la joie de Pâques et la lumière de Pâques, la lumière de la résurrection, remplissent votre cœur de cette vision que tous ressusciteront. Tous ressusciteront, mes amis. Même si tous les cimetières sont pleins maintenant, tous ressusciteront. Même si on trouve encore des ossements de gens qu'on nous dit qui ont vécu il y a des centaines de milliers d'années, tous ressusciteront, tous ceux qui sont humains, descendants d'Adam et de Ève, ce que nous appelons les humains. Je ne sais pas qui sont les gens qu'on retrouve qui ont je ne sais combien de centaines de milliers d'années. Je parle des humains, ceux qui ont eu cette faculté de louer Dieu, d'adorer Dieu. Ceux-là, tous ressusciteront. Tous. Ah, on ressuscite pour dans des dimensions différentes. Les uns ressuscitent pour vivre avec le Christ. Et les autres ressuscitent pour vivre un petit peu mince. Pourquoi j'ai pas accepté la grâce? Ce sera des dimensions. Mais tout le monde ressuscite. Tout le monde ressuscite. Dans ce long passage de Corinthiens 15 où l'apôtre Paul parle de la résurrection du Christ et on dit plein de choses à propos des morts, à peu près de ceux qui vont ressusciter, à propos de notre manière de vivre à cause de ça, il est dit, car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un seul homme, la résurrection vient aussi par un seul homme. En effet, de même que tous les hommes, ils meurent du fait de leur union avec Adam, de même que tous les hommes meurent parce que nous sommes descendants de nos pères et mères biologiques qui avons la mort dans la chair, tous les hommes seront ramenés à la vie du fait de leur union à Jésus-Christ. Ça veut dire du fait que Jésus-Christ possède la terre. C'est à lui. Il l'a prouvé. Il est venu comme serviteur et il revient comme possesseur. Après, à cause de ce que Jésus-Christ a fait, tous les hommes ressusciteront de par l'union de ce que Christ a fait pour les hommes. Troisième implication inhérente à la résurrection. Non seulement Jésus est Dieu, non seulement nous allons tous ressusciter, mais, troisième implication, après la mort, il y a un jugement. Regardez ce que dit le livre des Actes. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Waouh, aïe, ouïe. Dieu ne tient plus compte du temps où on ne le connaissait pas, parce qu'il est venu et qu'il a dit, c'est moi. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier dans toute sa justice. Comment? Par un homme. Qui? Celui qu'il a désigné pour cela. Mais, et comment le sait-on? Mais parce qu'il en a donné à tous la preuve. La preuve, c'est qu'il a ressuscité des morts. Ah, 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 ah. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent de Paul, les autres lui dirent « Ne t'écouterons là-dessus une autre fois. » On est devant les Grecs, des gens extrêmement instruits. Ils ne savaient pas comment parler. Ils ne savaient pas comment leur dire. Alors, il a fait comme nous le faisons aussi aujourd'hui. Si nous sommes une église où nous croyons à la résurrection corporelle de Jésus-Christ, nous sommes aussi à une église qui croit qu'il est important d'annoncer aux gens que maintenant que Dieu s'est révélé aux hommes et il n'y a plus d'excuses. Les hommes doivent savoir que Dieu est amour dans son désir de les sauver, mais Dieu est juste dans son désir de jugement de la terre. Il nous appartient, en tant qu'Église qui croit à la résurrection corporelle de Jésus-Christ, de ne pas adoucir non plus exagérément le message de Dieu. Il est extraordinaire de grâce et il est authentique de justice. Les deux composantes sont fondamentales. Que ce matin de Pâques, la lumière du ressuscité transforme votre vie en lui donnant encore un sens nouveau. Je disais tout à l'heure, moi j'écouterai plus rien. De jour en jour, je suis plus triste que la veille. On parlait de Viviane et moi, de ces jeunes qui se suicident. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de jeunes qui se suicident. J'en parlais dimanche passé avec le fiancé d'Aurélie, où il me disait, on essaye de mettre en place des systèmes pour qu'il n'y ait plus ces persécutions entre les jeunes via les systèmes de réseaux sociaux, via Facebook, et des gens qui sont conduits à l'isolement complet, voire jusqu'au suicide. Vous avez vu, il y a quelques jours, j'ai entendu un jeune homme, 11 ans, il devait aller au cours de musique. Sa mère est partie avec ses deux frères faire des courses. Elle est revenue une heure après. Il était pendu dans la cage d'escalier. 11 ans. Il ne savait même pas parler et écrire correctement. Il a laissé un mot en mettant ma vie est pourrite. Ma vie est pourrite. Que la lumière de la résurrection illumine le sens de notre vie, mes amis. Regardez autour de vous le nombre de gens qui sont complètement déboussolés d'une vie sans sens. Et c'est logique, quand nos enfants sont comme ça, on leur enseigne à longueur de temps partout qu'ils sont le résultat d'une évolution hasardeuse, faite d'un bombardement de certains mécanismes qui ont produit des transmutations ou des mutations en cours de route. Voilà ce que t'es, ta vie n'a pas de sens, ta vie n'est qu'un hasard, ta vie n'est qu'un tirage au sort. Alors à 11 ans, les enfants sont là. Et au lieu d'aller au cours de piano ou au cours de guitare, ils écrivent sur un mot « Ma vie est pourrite ». Que la lumière du ressuscité, mes amis, donne un sens à notre vie. Nous croyons à quelque chose qui a une autre destinée. Jean-Baptiste disait de Jésus « Lui, il vient d'en haut ». Nous, nous sommes d'en bas. Oui, oui. Lui, il vient d'en haut, il vient parmi nous, ici en bas, et il retourne en haut pour nous entraîner avec lui. Ça, c'est le sens de notre vie. Que cela puisse, en ce matin de Pâques, encore donner à nos épreuves, à nos doutes, à nos interrogations, à nos difficultés de vie, un éclairage nouveau. Notre vie a un sens. Nous sommes là pour un passage vers autre chose. Christ est ressuscité. Aucune situation n'est désespérée. En ce matin de Pâques, que la lumière de la résurrection puisse pénétrer ma vie et la vôtre avec cette dimension, cette assurance, cette espérance. Aucune situation n'est inespérée. Aucune situation n'est désespérée. Aucune. Ce qui aurait été désespérant, c'est que les femmes soient venues au tombeau et que Jésus était là, après tout ce qu'il avait dit, après tout ce qu'il avait fait, après tous les actes qu'il avait posés, ce grand Jésus, cet homme extraordinaire, qui a fait des choses que personne d'autre n'a faites. Et on aurait, de semaine en semaine, ou de mois en mois, ou d'année en année, amené une petite fleur en commémoration devant ce grand sage, ce grand prophète. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Jésus n'a pas pourri. Jésus n'est pas resté dans la terre. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Le tombeau était vide. Quand, tout au début de l'histoire du salut de l'humanité, lorsque Marie est enceinte et qu'elle attend Jésus, elle va voir sa cousine Élisabeth qui va mettre au monde le Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, et quand elle se rencontre, Élisabeth était une femme stérile depuis de très nombreuses années et elle dit « Moi aussi, j'attends un enfant, car rien n'est impossible à Dieu. » Oh, je ne veux pas ici mettre en évidence que Dieu fait ce qu'on demande, comme nous le demandons et comme nous le voulons, absolument pas. Je veux dire que quoi qu'il arrive, il nous appartient d'avoir cette espérance illuminée par la lumière du ressuscité, que celui qui fait passer de la mort à la vie peut transformer toute situation désespérée. Je ne sais pas ce que tu vis, tu peux être désespéré financièrement. On vit pour l'instant toute une histoire avec une désespérance financière avec quelqu'un qu'on connaît. Peut-être tu es désespéré financièrement. Aucune situation n'est désespérée avec Dieu. Peut-être, et je ne porte aucun jugement de valeur sur la manière dont nous vivons nos couples. Je sais que c'est difficile de vivre le couple. Mais peut-être que ton couple, il est au bord du gouffre. Peut-être, et je ne porte aucune, rien, comprenez bien. C'est très égoïstement, ce n'est pas mon problème. Mais peut-être que au bord du gouffre dans ton couple, peut-être que devant le tombeau vide, la mort qui devient vie et résurrection, peut-être qu'il y a peut-être encore du renouveau possible pour ton couple. Espère. Peut-être que c'est la même chose avec la maladie. Tu es peut-être dans le gouffre à cause de la maladie. Et peut-être qu'il y a autre chose pour toi. Mais peut-être aussi que il t'appartient de considérer que ce n'est pas une situation désespérée. Peut-être que pour nos enfants et ceux que nous aimons, qui mettent jamais les pieds dans une église, qui n'en ont rien à faire du message de l'Évangile, peut-être que nous nous disons « situation désespérée ». Non, la situation désespérée, c'était que Jésus-Christ reste dans le tombeau. Mais Jésus-Christ n'est pas resté. Alors, il n'est rien d'impossible à Dieu. Enfin, dernière implication inhérente à la résurrection, mes amis, c'est que la lumière de Pâques, la lumière du ressuscité, vous renouvelle dans cette vérité qu'il est temps de travailler. Il est temps de travailler. Quand pendant ces 50 et des versets, dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, l'apôtre parle de la résurrection, des implications, du jugement, etc., etc. Il termine dans les versets 57 et 58 en disant « Loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, mes chers frères, mes chères sœurs, soyons fermes. Ne nous laissons pas ébranler. Travaillons sans relâche pour le Seigneur. Sachant que la peine que nous nous donnons au service du Seigneur n'est jamais, jamais inutile. » La semaine dernière, nous avions la tonnelle ici et on parlait, la prédication, le thème de la prédication, c'était l'évangélisation. Bien sûr que c'est une manière de travailler pour le Seigneur. Mais il y en a d'autres, mes amis. Oh, il y en a plein d'autres. Que la lumière de Pâques illumine de nouveau mon cœur pour savoir que je dois travailler sur ma relation avec celle que j'aime, ma relation avec mes enfants, les paroles que je dis et que je ferais mieux de ne pas dire, les actes que je pose et que je ne ferais mieux de ne pas poser. Que la lumière de Pâques, de nouveau, illumine ces choses dans ma vie pour me rappeler que si je crois à la mort et à la résurrection du Seigneur, tout ce que je fais personnellement, tout ce que je change dans ma vie avec l'aide de Dieu, pour Dieu, ce n'est jamais inutile. Et par la même occasion, rappelons-nous que c'est vrai, au sein de l'Église, il y a toujours des tâches à faire. Ah, c'est pas toujours les trois mêmes qui, dans une église, doivent passer leur temps parce que, c'est eux qui sont là dans l'église, donc c'est comme ça. Au sein de l'église même, chacun a sa place, chacun a son rôle. Il y a suffisamment de choses petites, encore plus petites et encore plus petites à faire. Et chacune de ces choses n'est jamais, jamais, jamais inutile devant le Seigneur. Alors voilà. Vous l'avez compris. Que la lumière vienne. Je trouve souvent, je me fais la remarque, souvent, le matin de Pâques, on a quelques heures de soleil. Je ne sais pas si c'est moi qui vois ça comme ça, mais bon, aujourd'hui, il y a un petit peu de soleil. Que la lumière entre, mes amis. Que la lumière entre dans votre vie. Parce que Christ mort et ressuscité, ça veut dire qu'il est vraiment Dieu. Que le Dieu auquel vous croyez ne peut pas dire ça. C'est vraiment Dieu. C'est pourtant ça. Pour vous rappeler que tous vous avez ressuscité. Vous rappeler que les enfants que vous avez peut-être perdus, la femme que vous avez perdue, le mari que vous avez perdu, les parents que vous avez perdus, les amis que vous avez perdus, ce n'est qu'un passage. Tous vous allez ressusciter. Si on pointe dans la parole de Dieu le nombre de versets qui parlent de la résurrection des morts, c'est impressionnant. Après la mort, le jugement. Mais surtout, ici, tant que nous sommes ici, la vie a un sens. Elle n'est pas pourrite. C'est peut-être terrible ce que nous voyons autour de nous. Mais notre vie, l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité, a un sens. Parce que Christ est ressuscité, rappelez-vous qu'aucune situation n'est pour vous désespérée. On ne sait pas comment Dieu agira. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais tant que j'ai l'espoir, parce que Christ est ressuscité. Et est-ce qu'il y a plus gros que passer de la mort à la vie? Non, il n'y a pas plus gros. Et enfin, votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen.